Le journal de l'écho par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Pardon, décryptage écho ce matin sur ce qu'on pourrait bien appeler un butin de guerre, à savoir les actifs qui appartiennent à la Russie et gelés par l'Union européenne en représailles à l'invasion de l'Ukraine. Cela représente 300 milliards d'euros. Un trésor constitué de titres financiers, de patrimoine d'oligarques ou d'entreprises immobilisés par la loi et qui pourrait se révéler fort utile pour l'industrie de défense européenne. Nombreux sont ceux qui réclament en effet l'utilisation de ces fonds pour aider l'Ukraine à s'armer ou à se reconstruire, mais cela supposerait de les confisquer définitivement. Bonjour Valentin Grille.
Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous.
Bruxelles a décidé il y a 10 jours d'utiliser les intérêts produits par ces actifs, soit déjà près de 3 milliards d'euros chaque année, mais les risques économiques retiennent pour l'instant les Européens d'aller plus loin.
Oui, car au fil des 13 paquets de sanctions adoptés par l'Union européenne, Bruxelles a amassé des sommes faramineuses d'actifs russes. Ils sont gelés, donc tout déplacement, vente ou utilisation est strictement interdite. Leur profil est divers, avec d'abord plus de 20 milliards d'euros de maisons, bateaux, immeubles appartenant à des oligarques, ces hommes d'affaires soupçonnés d'être liés à l'effort de guerre. À cela s'ajoutent les possessions des entreprises russes en Europe et surtout les avoirs de la Banque centrale russe, des obligations, des titres financiers divers et même de l'or stocké un peu partout, autour de 200 milliards d'euros en tout, dont près de 135 dorment en Belgique au sein de la société Euroclear, une spécialiste des transferts internationaux. Quantifier et tracer ces actifs est difficile, a fortiori les saisir aussi. Les Européens craignent en effet de créer un précédent qui pourrait effrayer des investisseurs étrangers, des investisseurs qui pourraient craindre d'enfreindre notre état de droit et de s'exposer à des sanctions. Ce que rappelle Karel Lanou, il est directeur du Center for European Policy Studies, un think tank bruxellois.
On veut défendre un cadre juridique qui est très ferme, qui est très clair, mais entre-temps, il y a des autres États qui voient ce qu'on fait et qui commencent à avoir des doutes sur le système financier européen. Par exemple, des États comme les pays du Golfe, etc., ils vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Nous, on va explorer, nous aussi, d'autres endroits » pour mettre nos actifs.
Cas concret, l'Arabie Saoudite, déjà mise en cause dans l'affaire de l'assassinat de Jamal Khashoggi, pourrait voir d'un mauvais œil une saisie de ses investissements en Europe.
Valentin, la question de l'attractivité concerne aussi notre monnaie, l'euro, qui pourrait aussi souffrir de cette confiscation.
Oui, c'est l'autre enjeu économique. Selon les 27, saisir les actifs russes, ce serait mettre en danger l'euro, aujourd'hui utilisé par nombre de banques centrales dans le monde en guise de réserve pour stabiliser les taux de change. Notre monnaie reste forte, deuxième derrière le dollar avec 20% des réserves mondiales environ. Mais la Russie et la Chine s'en détournent depuis plusieurs années et pourraient finir par attirer d'autres pays vers le yuan ou le rouble. D'autant qu'au débat économique s'ajoute un débat juridique. Bruxelles n'a pas la compétence de trancher. Tout repose sur le droit national. Et en France, par exemple, la loi fixe depuis 2016 l'immunité des États. Geler un avoir est donc possible en vertu du droit des sanctions, mais la saisie ne peut intervenir que si ce droit des sanctions est ouvertement enfreint. À Bruxelles, on va donc devoir être inventif. L'Estonie propose de se baser sur le registre des dommages infligés à l'Ukraine, mis en place par le Conseil de l'Europe l'année dernière pour quantifier ce qui peut être saisi. Une autre solution serait aussi d'émettre un prêt pour financer l'Ukraine, auquel les avoirs gelés pourraient servir de garantie. Mais reste là encore à savoir quelle institution pourrait être compétente pour émettre ce prêt. En attendant, le gel peut durer longtemps. La France a par exemple détenu des avoirs lituaniens pendant près de 50 ans entre l'invasion soviétique et l'indépendance du pays en 1990.
Valentin Gris, merci. On retrouve votre décryptage écho à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture et l'appli Radio France. C'est une petite révolution en Californie dans un secteur qui emploie rien que dans cet état américain plus d'un demi-million de personnes, les fast-food. Leurs employés verront leur salaire minimum passer de 16 à 20 dollars de l'heure. La grande majorité de ces travailleurs de la restauration rapide sont des femmes et des latino-américains ou afro-américains avec un salaire annuel médian de 25 800 dollars, soit largement en dessous du salaire médian californien. Certaines chaînes assurent qu'elles devront augmenter leurs prix pour absorber ces surcoûts. Les économistes sont divisés sur la question, mais certains font valoir que l'État californien a créé 142 000 emplois dans le secteur depuis que le salaire minimum a commencé à augmenter. Ouigo, la filiale à bas coût de la SNCF, est dans le viseur des autorités espagnoles. La ministre espagnole des Transports l'accuse en effet de vendre à perte pour accroître sa part de marché dans le transport de passagers aux dépens de la compagnie nationale espagnole Renfe. Des pratiques déloyales, selon plusieurs élus espagnols. Le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez étudierait la possibilité de dénoncer Ouigo devant la Commission nationale des marchés et de la concurrence espagnole. Le débat agite l'Espagne en en effet sur les bienfaits de l'ouverture du rail à la concurrence qui a entraîné une baisse continue des prix. Enfin, en France, l'un des présidents du CAE, le Conseil d'analyse économique, un organe dépendant de Matignon, estime que, je cite, « refuser toute hausse d'impôts au vu de notre situation budgétaire est absurde ». Parole de Camille Landais, président délégué du CAE, après les promesses réitérées du gouvernement de ne pas augmenter les impôts pour tenter de résorber le déficit budgétaire. Je ne vois pas comment cette consolidation budgétaire pourrait être défendue sans faire contribuer tout le monde, notamment les plus riches, a-t-il exposé dans les colonnes des Échos. Autre dépense dans le viseur de l'économiste, très élevée selon lui, mais avec une efficacité limitée, le crédit impôt recherche pour les entreprises et le système d'aide à l'apprentissage beaucoup trop généreux pour les étudiants du supérieur.